Chapitre 4. Lorsque Madame Bessarabot pénétra dans le cabinet du magistrat, qu'elle n'avait pas revu depuis son arrestation, comprenant qu'elle allait être obligée de jouer très serré et qu'une parole imprudente pouvait tout compromettre, elle se composa une attitude toute de sang-froid qui correspondait à merveille avec son intention bien arrêtée de passer peser toutes ses paroles. Elle avait d'ailleurs eu le temps, pendant son détention, de prévoir les questions qui lui seraient posées, ainsi que les réponses qu'elle devait y faire. Et au regard d'encouragement que lui adressa un de ses défenseurs, Maître Cuvillier l'héritier, qui était venu l'assister, elle répondit par un demi-sourire qui rassura immédiatement l'excellent avocat sur l'état d'esprit de sa cliente. M. Bonin commença à poser à l'inculpé des questions très précises sur sa vie matrimoniale. Elle lui répondit avec les apparences d'une tranquille franchise et avec une concision remarquable. Puis le juge lui demanda des détails sur sa situation financière. Avec assurance, elle affirma qu'elle avait apporté à M. Weissmann une fortune de près d'un million, qui provenait de la succession de son premier mari. « Mais, fit-elle, M. Weissmann, en peu d'années, a dilapidé ses capitaux dans des affaires véreuses, en même temps qu'il montait un grand train et qu'il entretenait plusieurs maîtresses. Il me laissait sans solde, sans subside, ma fille et moi. Il ne rentrait chez lui chaque nuit que fort tard, souvent à moitié ivre. Il me faisait des scènes épouvantables et allait même parfois jusqu'à me frapper. » Logiquement, M. Bonin objectait à l'accusé. « Alors pourquoi restiez-vous avec lui ? » ?»« J'espérais toujours qu'il reviendrait à de meilleurs sentiments. Et puis je savais qu'à l'échéance du 31 juillet prochain, mon mari devait être exécuté en bourse, et j'espérais qu'à la suite de ce désastre, il consentirait à partir avec moi pour la Tunisie. Nous aurions fait de l'élevage. Ce projet me semblait d'ailleurs guère lui sourire. Alors je lui déclarai que s'il refusait, je retournerais avec ma fille Paul au Mexique, auprès de mon autre fille qui est mariée là-bas. Mais bien que je n'eus en ce moment comme argent liquide que 3 ou 4 000 francs, M. Bessarabot ne me proposa aucune aide pécuniaire pour ce voyage. « Oh, c'est le tort qu'il a eu !» soulignait intimement M. Bonin. « Car si vous avez laissé partir là-bas, il serait encore de ce monde !» À cette pointe directe, Mme Bessarabot se contenta de ne répondre que par un profond soupir. « Bon, maintenant, reprenait le magistrat, revenons-en au crime. À quelle heure Bessarabot est-il rentré ?»« Oh, je ne saurais vous le dire exactement, répliquait l'inculpé, mais comme toujours, il devait être fort tard. »« Est-ce tout de suite que la discussion a commencé ?»« Non, 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 c'est un autre réveil, si on peut appeler ça un réveil, car je n'ai pour ainsi dire pas dormi. » Oh, il était environ 6 heures du matin. J'ai reproché à M. Weissmann son inconduite. Il m'a riposté par des injures, des sarcasmes et enfin des menaces. J'ai eu peur et c'est alors que j'ai tiré. Ensuite, j'ai ramassé hâtivement le porte-monnaie, le porte-cigarette, l'oreiller que j'ai enfermé dans une valise. Que vous avez emporté à Montmorency? « Oui, monsieur le juge. Vous avez tout brûlé ?»«
Oui. »«
Votre mari avait des bijoux ?»«
Oui. »«
Pouvez-vous me les énumérer ?»«
Une épingle de cravate, une bague, des boutons de manchette. »«
Et qu'en avez-vous fait ?»«
Je les ai jetés, ainsi que le revolver, dans le lac d'Enghien. »
Monsieur Weissmann, n'avait-il pas sur lui un volumineux portefeuille contenant plusieurs milliers de francs?
Non, non, il le laissait toujours dans le coffre rue de la Victoire. Nous vérifierons.
L'interrogatoire de Madame Bessarabot était terminé.
Quelques instants après, Mademoiselle Paul Jacques remplaçait sa mère dans le cabinet du juge. Elle était assistée de son avocat, Maître Raymond Hubert, et tout de suite Bonin lui demanda « Comment avez-vous découvert le crime ? Dans quelle mesure avez-vous aidé votre mère à tenter de le dissimuler ?» Mademoiselle Jacques, qui semblait avoir retrouvé tout son calme et sa présence d'esprit, répliquait « Il était 8 heures du matin lorsque j'entendis la détonation. Ma mère m'appelait aussitôt et j'ouvris la porte de ma chambre qui communiquait avec le cabinet de toilette de ma mère. Et dans une glace, j'aperçus qu'il y avait sur le lit une forme humaine étendue, recouverte. Je compris tout de suite ce qui s'était passé. Vous attendiez-vous à un drame ? Pas précisément. Cependant, je dois dire que je n'étais pas sans en redouter les éventualités. Depuis longtemps, l'existence familiale n'était qu'une suite de querelles et de violences. Un jour, j'avais même vu mon beau-père tenant ma mère à la gorge et la frappant parce qu'il lui reprochait d'avoir une maîtresse. Lorsque vous avez aperçu le cadavre de M. Weissmann, reprenait M. Bonin, qu'avez-vous fait ? Êtes-vous entré dans la chambre ?
Non,
répliquait l'inculpé. J'ai proposé à maman de prévenir quelqu'un, mais elle m'a répondu « Pas de scandale, et il ne t'appartient pas de te mêler de ces horreurs. » Et alors ? Alors, sur la demande de ma mère, je suis allé chercher une malle au 6e étage, et je la lui ai remise dans l'antichambre. Ce n'est qu'une demi-heure après que je suis entré dans la chambre où le drame venait de se dérouler. Il y avait au milieu de la pièce un paquet informe. C'était le corps de mon beau-père qui était enveloppé dans un imperméable brun. Et d'une voix devenue tremblante et mal assurée, Mademoiselle Paul Jacques achevait. « Oh non, sous peine, non sans peine, nous réussîmes à enfermer le cadavre dans la malle. »« Aviez-vous déjà décidé ?» demandait le juge. « Ce que vous alliez faire de la malle ?»«
Non, »
répliquait l'accusé. « Nous ne savions pas du tout. Et nous sommes allés de gare en gare avant de prendre un parti. »« Et comment votre mère vous a-t-elle retracé la scène du meurtre ?»«
Ses premiers mots furent « Je me suis défendu. » »« C'était lui ou moi ?»
Puis elle a ajouté qu'elle avait tiré lorsque M. Weissmann lui avait dit que si elle touchait à sa maîtresse, il se vengerait sur moi. Quand et par qui a été écrite cette fausse lettre dans laquelle M. Weissmann était supposé inviter sa femme à faire expédier la malle à Nancy ?
C'est par moi,
répondait sans hésiter Mademoiselle Jacques.
C'est sous la dictée de ma mère qui, le 31 juillet, j'ai écrit le texte de ce billet. J'en ai recommencé plusieurs fois la copie définitive afin d'imiter l'écriture de mon beau-père.
Est-ce que M. Weissmann avait beaucoup d'argent sur lui ?
Ma mère m'a affirmé qu'elle avait trouvé 120 francs environ.
Quelque temps après, M. Bonin reprenait l'interrogatoire de Mlle Paul Jacques. Après avoir fait répéter à l'inculpé le récit de ce qui s'était passé à la gare, relativement à l'expédition de la malle à Nancy, il lui demanda de lui préciser les faits qui s'étaient déroulés ensuite à la villa de Montmorency. Mademoiselle Jacques répondait
« Nous y sommes arrivés vers 5 heures de l'après-midi, et aussitôt ma mère a brûlé les papiers qu'elle avait apportés du square La Bruyère, et le même jour nous reçûmes la visite d'une amie, Madame Bourdin, que nous reconduisîmes ensuite à la gare à 6h30. Ma mère et moi, nous nous dirigeâmes alors vers le lac d'Anguin, où nous louâmes un canot. Je tenais les rames, et au milieu du lac, entre l'île et le casino, à l'endroit de la plus grande profondeur, je pense, ma mère sortit d'un sac qu'elle avait emporté et jeta à l'eau des clés, un revolver et un portefeuille.
« C'est le sien, me dit maman. Le tout s'enfonça doucement dans l'eau, et moi, je regardais bien attentivement de droite et de gauche pour voir si l'on nous offrait de servir. Et à 8 heures, nous rentrâmes dans la villa, et à 10 heures, après avoir l'une ou l'autre remémoré les événements de la journée, ma mère me dit d'écrire sous sa dictée le billet suivant. Je rentrerai ce soir à Montmorency, je te demande de remettre au porteur de ce mot le billet de la malle expédié à Nancy, signé Bessarabot. Ce mot était censé être écrit par mon beau-père, comme je vous l'ai déjà dit, monsieur le juge. C'était pour endormir les soupçons de la police. Négligeant de répondre à cette question, mademoiselle Paul-Jacques poursuivait. Oh, j'ai fait plusieurs essais d'écriture avant d'arriver à imiter parfaitement celle de mon beau-père. Et je lui ai même procédé à un décalque. Dans tout cela, je n'ai fait qu'exécuter les instructions de ma mère. C'est bien ce billet qu'elle a montré aux amis et aux parents de votre beau-père. Parfaitement. Et à quel moment vous êtes-vous entendu avec madame votre mère pour faire à la justice les mêmes déclarations? Car elles sont vraiment trop identiques, surtout dans ce qui concerne la scène du crime, à propos de laquelle, cependant, bien des obscurités subsistent. Très troublée par ce coup direct, mademoiselle Paul répondit. Dans le taxi qui nous conduisait Square La Bruyère, à notre retour de Montmorency, ma mère m'indiqua tout ce que j'avais à dire au sujet de nos meilleurs malheurs de la gare du Nord et de l'Est. Et elle ajouta, « Je ferai tant que je pourrai pour te sauver. » Votre mère n'est-elle pas allée plus loin? Au cas où le crime serait découvert, quelle attitude deviez-vous observer? Ma mère était restée imprécise sur ce point. Mais pendant que nous étions gardés à vue, Square La Bruyère, ma mère réussit à ouvrir une porte et à me crier qu'elle avait avoué, ne voulant pas que j'aille en prison. Vous persistez à dire que votre mère ne nous avait pas indiqué d'avance quelle version elle ferait du crime même, et vous soutenez que c'est elle qui a tiré le coup de feu, qui a tué votre beau-père. Elle m'a dit qu'elle dirait la vérité. Quant à moi, j'affirme que je suis absolument sincère. Avant d'ordonner une confrontation entre la mère et la fille, Monsieur Bonin, désireux d'établir si Bessarabot avait été tué par sa femme ou par sa fille, ou par toutes les deux, ou encore par un tiers avec leur complicité, procédait à un nouvel interrogatoire de la meurtrière. Celle-ci, dès les premières questions que lui posait le magistrat, s'écriait avec force « Mais je maintiens toutes mes déclarations ultérieures !» Je suis la seule coupable, je vous jure sur la tête de ma fille qu'elle est innocente. Monsieur Bonin s'enquérait. Existait-il des motifs d'animosité entre votre fille et votre mari? N'avait-il pas fait rompre ses fiançailles? Non, répliquait catégoriquement madame Bessarabot. Paul les avait rompues elle-même, pour ne pas déplaire à mon mari, évidemment, mais non sous sa pression. Il ne se voyait jamais. Mon mari rentrait tard et ne mangeait jamais à la maison. Il n'y avait donc aucune hostilité entre eux. Le seul sentiment qui se soit fait jour alors dans l'âme de ma fille vis-à-vis de son beau-père, c'est une grande souffrance de voir qu'il me méconnaissait et qu'il avait des amis. Nous les rencontrions, ma fille et moi, dans le quartier. Nous baissions la tête et nous passions muettes. Mais sa douleur à elle me poignardait plus que la mienne. Et, saisie d'une vive émotion, madame Bessarabot s'arrêta comme si elle n'avait plus rien à dire. Monsieur Bonin voulait obtenir d'elle de plus amples détails sur le drame même. Mais cette fois, la femme de lettres, qui s'était montrée jusqu'alors plutôt prolixe dans ses explications, semblait maintenant décider à un mutisme farouche. Le juge reprenait. Vous m'avez bien dit que vous aviez eu une discussion vers 6 heures du matin.
C'est exact.
Et quel était le sujet de cette querelle?
C'était au sujet d'une des maîtresses de mon mari, sa dactylographe. Comme je voulais le décider à rompre avec elle, il me déclara que c'était impossible, car elle était enceinte de lui.
Comédie, fis-je irrité. Oh, j'irai à ton bureau et je la reverrai moi-même.
Alors il me menaça d'exercer sur ma fille d'odieuses représailles. Je dus l'empêcher d'aller jusqu'à la chambre de mon enfant. Oh, ce qui suivit fut rapide, brutal, inconsolant de ma part.
Et d'un ton tragique, la femme de l'être poursuivit.
Je revois la scène. Il est assis sur notre lit, moi couché. Je veux me lever. Il me prend par les épaules, me recloue sur le lit. Je me débat. Mon bras, qui pend alors hors des draps, rencontre sur la chaise, tout près, un revolver que j'avais l'habitude d'y placer. Car souvent mon mari rentrait tard ou ne rentrait pas et je suis peureuse. Je saisis l'arme, ma main se crisse, le coup part et mon mari s'effondre.
Monsieur Bonin, qui a écouté l'inculpé sans l'interrompre, lui faisait observer « Vos affirmations sont contraires à tout ce qu'a réinculqué l'enquête et à toutes les déclarations de votre fille. » Madame Bessarabot répliquait
« J'ignore ce que les gens ont pu vous raconter et ce que vous a dit Paul. J'affirme et je maintiens que moi, je viens de vous dire toute la vérité. »
Comme elle semblait très nerveuse, M. Bonin, comprenant qu'il n'obtiendrait plus rien d'elle, du moins quant à présent, terminait l'interrogatoire, et afin de lui laisser le temps de la réflexion, il ne la faisait revenir que le 7 février 1921, dans son cabinet où, en présence de Maître Campinchy et Cuvillier l'héritier, ses deux défenseurs, il allait s'efforcer d'obtenir d'elle des déclarations non moins invraisemblables et se rapprochant davantage de la vérité. L'inculpé, qui avait reconquis tout son sang-froid des premiers jours, commença par déclarer que seule elle avait tiré et que sa fille avait tout ignoré jusqu'au moment de l'arrestation.
« Bien, » dit M. Bonin d'un air sceptique,
mais évitant d'engager les débats sur un terrain où il aurait pu s'égarer, M. Bonin reprenait aussitôt. « Le soir, à Montmorency, vous vous êtes mise à la fenêtre de votre villa, semblant attendre comme d'habitude le retour de votre mari. Mais pourquoi ce simulacre au sujet d'une arrivée que vous saviez impossible ?» Un instant, Mme Bessarabot garda le silence, joignant les mains, levant les yeux au ciel. Puis, sur une nouvelle instance du juge, elle se décida.
Je ne voulais plus changer mes habitudes. Ma fille et le jardinier auraient pu en faire la remarque.
Et votre fille, justement, qui selon vous ignorait ce que vous aviez fait de son beau-père, ne vous a-t-elle pas fait d'observation en voyant qu'il ne rentrait pas?
Oh, mon mari était si irrégulier, répliquait la meurtrière.
Parlons un peu de votre promenade à Enghien. Je suppose que vous ne nierez pas que vous y êtes rendu.
Je le reconnais très bien.
Racontez-nous ce que vous avez fait dans cette ville.
Comme il pleuvait, ma fille et moi, nous sommes rentrés dans un petit bar et nous avons pris un petit café. Alors, nous avons vu deux hommes qui se dirigeaient du côté du lac. J'ai montré l'un d'eux à ma fille. Il ressemblait à l'un des trois individus qui, avec mon mari, se partageaient les faveurs de la dactylographe. Ces hommes prirent une barque. Nous aussi, mais au lieu de les surveiller, cela nous arrivait quelquefois, c'était un de mes amusements. Nous les perdîmes de vue, car ce matin-là, nous n'avions pas le cœur à la surveillance.
Et quelle heure était-il?
Environ 10 heures. Nous allâmes en canot, ma fille ramant, moi-même étant au gouvernail, jusqu'au club situé entre les deux lacs. C'est là que j'ai jeté les bijoux de mon mari. Sa montre, sa bague, son épingle de cravate et le revolver. Ma fille, bien que me faisant face, ne s'en aperçut pas. Vous en êtes bien sûr? Oh, absolument. Et après? Nous sommes rentrés à la villa. Des amis, un coulissier et sa femme sont venus déjeuner avec nous. Ne seront-ils point étonnés de l'absence de votre mari? Non, car ils savaient qu'il partait souvent, du samedi au lundi. Et de quoi avez-vous parlé? De la situation de M. Bassarabo, de sa liquidation du 31, qui menaçait d'être si désastreuse pour lui. M. Dauphin me recommanda de n'en parler à personne, car l'indiscrétion pouvait alerter la justice. Il valait mieux éviter qu'elle ne s'occupât pas de lui en ce moment. Et vers 6 heures du soir, nos invités nous quittèrent et nous rentrâmes peu de temps après, eux, à Paris. Qu'alliez-vous y faire? Prendre notre courrier et mettre un peu d'ordre dans l'appartement où nous avions le vendredi précédent offert le thé à des amis. Une fois chez nous, ma fille me parla de l'ordre écrit que m'avait donné M. Weissmann d'envoyer une malle à Nancy, ordre que je lui avais montré le samedi matin pour justifier l'expédition. Et je lui répondis que j'avais perdu ce billet et je lui demandais: tu devrais le reproduire, tu as de meilleurs yeux que moi. Je lui ai dicté et c'est ce papier qui fut remis au commissaire de police. Et le lendemain, qu'avez-vous fait? Reprenait imperturbablement M. Bonin. Nous sommes revenus à Paris. Je me suis rendu au bureau de mon mari, rue de la Victoire. Je me suis fait remettre sa correspondance. Je suis allé ensuite à son cercle. Là, on m'a refusé ses lettres. Mais j'ai pu voir 2 cartes postales qui lui avaient été expédiées par l'une de ses maîtresses. Et dans l'après-midi, j'ai reçu la visite d'un oncle de M. Weissmann qui m'a demandé des nouvelles de son neveu. Et je lui ai répondu qu'il nous avait quittés et l'oncle m'a dit « Oh, rien ne m'étonne de lui !» Le soir, nous sommes rentrés, Paul et moi, à Montmorency. Nous avons reçu le lendemain matin la visite du commissaire de police qui nous a ramenés square la Bruyère et de là, après une perquisition, il nous a emmenés au commissariat. Nous nous sommes rencontrés avec mon beau-frère, M. Gustave Weissmann, et 2 amis de mon mari, M. Lafont Janssens et Politzer, qui l'accompagnaient. Et tout de suite, M. Weissmann m'a interpellé d'un ton menaçant. « Vous avez tué mon frère !» Et M. Lafont Janssens a ajouté « Vous avez tué aussi votre premier mari !» Et non seulement, surenchérit M. Bolisser, vous avez tué votre mari, mais encore vous lui avez volé une enveloppe contenant 160 000 francs de diamants que je lui avais prêté pour son échéance du 31 juillet. J'étais tellement suffoqué que je n'ai pas trouvé un mot pour répondre à ces 3 énergumènes. Et d'un ton tragique et indigné, Mme Bessarabo s'écriait « Voilà comment a débuté l'instruction !» Monsieur Bonin allait poursuivre son interrogatoire, mais comme Mme Bessarabo commençait à donner des signes de fatigue sur l'intervention de Monsieur Campanchi et Cuvillier l'héritier, Monsieur Bonin l'autorisait à se retirer. Le 4 mars suivant, il décidait de confronter la mère et la fille et de tâcher d'obtenir d'elles des déclarations à la fois précises et concordantes grâce auxquelles il serait possible de déterminer la part de responsabilité qui incombait à chacune d'elles. Les 2 femmes, qui ne s'étaient pas revues depuis de longues semaines, manifestèrent dès qu'elles furent en présence une profonde émotion. Elles se précipitèrent dans les bras l'une de l'autre et s'étreignirent longuement, sans prononcer d'ailleurs une parole. M. Bonin eut l'humanité de ne pas interrompre ses effusions, qui furent d'ailleurs de brève durée. On lui dit en effet que les 2 inculpés avaient hâte d'en finir avec une scène qui ne pouvait être que très pénible et dont chacune, de leur côté,
Elle semblait redouter les éventualités. Lorsqu'elles furent assises en face du juge, entre leurs défenseurs respectifs, le juge d'instruction disait à Madame Bessarabeau: Je dois vous dire qu'entre la version que vous nous avez donnée de la mort de votre mari et celle que nous a fournie votre fille, il existe des contradictions flagrantes. Oh, cela m'étonne, répliqua la femme de lettres. Monsieur Bonnin reprenait. Le greffier va vous donner lecture de vos dépositions ainsi que de celles de votre fille. Ce qui fut fait aussitôt. Madame Bessarabeau, qui avait écouté cette lecture avec le plus grand calme, reprenait. « Je reconnais, en effet, que ces contradictions existent, mais elles ne sont qu'apparentes et je saurai les concilier. »« Et vous ?» demandait M. Bonin en s'adressant à Mademoiselle Jacques. Celle-ci répliquait « Oh, j'ai rien changé à mes déclarations. » « Vous reconnaissez bien cependant qu'elle ne concorde pas du tout avec celle de votre mère. » Avec énergie, la jeune fille protestait. « Je ne veux rien dire contre ma mère, je ne veux pas l'accuser. Sans elle, je n'ai que faire de la vie. La liberté m'est indifférente, si elle n'est pas libre. » « Enfin, oui ou non, confirmez-vous. » « Je confirme. » « Répétez. » D'une voix fiévreuse, Mademoiselle Jacques articulait. « Oui, nous étions seuls, soir la Bruyère. Mon beau-père est rentré vers minuit. J'étais dans ma chambre. J'ai entendu une détonation. Par la suite, notre mère m'a envoyé chercher une malle et enfermé un paquet informe enveloppé d'un imperméable. Ma mère dira ce qu'elle a fait. » Et elle ajouta d'un ton étrange, « Mère, c'est à toi de parler. » Toutes deux échangèrent alors un bref regard, lourd de reproches, et qui n'échappa nullement à M. Bonin. Celui-ci disait à Mme de Sarabeau, « Vous avez entendu l'invitation. Elle vient de votre faire votre fille. Eh bien, faites ce qu'elle vous demande. » Quelque peu démonté, la meurtrière déclarait d'un ton solennel « Les dernières déclarations de ma fille ne contredisent pas les miennes. Ses aveux ont suivi les miens parce qu'elle voulait partager ma parole et ma prison. Lorsqu'elle m'accuse, ce n'est pas fort spontanément. Jamais vous ne me la ferez jurer qu'elle ne m'a vu ni n'a tué quelqu'un. » Et se tournant vers son enfant, elle s'écriait « Sois tranquille, ma fille, nous sommes en France, dans le pays de Saint-Louis, il y a une justice !» À la surprise de tous, les deux femmes, qui un instant auparavant se dévisageaient d'un air d'hostilité très caractéristique, se rejetèrent dans les bras l'une de l'autre et s'embrassèrent en sanglotant. Mademoiselle Paul Jacques tirait même de son sein une médaille bénite, et la remontait à sa mère en lui disant « Garde-la bien, elle te portera bonheur. » Et théâtralement, Madame Bessarabeau portait la petite à ses lèvres. Un incident imprévu allait interrompre brusquement l'enquête de Monsieur Bonin. En effet, le soir, en réintégrant sa cellule à Saint-Lazare, Mademoiselle Paul Jacques était prise de frissons et de fièvre, et le lendemain, une forte grippe infectieuse se déclarait, mettant ses jours en danger. Immédiatement, elle était transportée à l'infirmerie de la prison. Madame Bessarabeau était autorisée à demeurer au chevet de sa fille, qui pendant plusieurs semaines fut véritablement entre la vie et la mort. Ce fut seulement au bout de 2 mois que, remise de la maladie qui l'avait terrassée, elle put se rendre au cabinet de M. Bonin, où elle se trouvait de nouveau avec sa mère. Mademoiselle Paul Jacques faisait alors au magistrat la déclaration suivante. « Vous m'avez permis, monsieur le juge, de voir ma mère au cours de la grave maladie qui m'avait abattue. Alors il m'a été possible de parler longuement avec elle. J'ai acquis la certitude de son innocence. À la vérité, j'ai toujours cru que ma mère était incapable de la moindre défaillance morale. Et aujourd'hui, j'ai la conviction que, comme moi-même, elle n'est pas coupable. Je suis innocente et ma mère est innocente comme moi. Le coupable, oh, cherchez, vous trouverez. Mais je jure que ce n'est ni moi, ni ma mère.
Cependant, faisait observer M. Bonin, M. Chalet, concierge de l'immeuble du Square La Bruyère, a déclaré que lorsqu'il avait chargé la malle funèbre sur le taxi-auto, Mme Bessarabot paraissait fort troublée.
Oh, ma mère n'était nullement affolée et ni inquiétée au moment où la malle est partie. Si le conduit de la malle l'avait paru suspect au témoin, il ne l'aurait pas ficelé et ne l'aurait pas laissé partir.
Alors, Mme Bessarabot laissa échapper cette affirmation surprenante,
mais la malle ne contenait pas le cadavre de M. Weissmann.
Qu'est-ce que vous me racontez là? S'écria M. Bonin en levant les mains au ciel. Avec un sang-froid de plus en plus déconcertant, Mme Bessarabot allait donner une troisième version de la mort de son mari.
« Ce n'est pas son cadavre, disait-elle, qui a été trouvé dans la malle à Nancy. Mon mari était un espion. Il est en ce moment à New York. D'ailleurs, le cadavre n'a pas été identifié. Ni moi, ni ma fille n'avons assisté à l'ouverture de la malle. »
« Mais ce que vous dites là ne tient pas debout !» s'écria le magistrat. « Monsieur Weissmann, votre beau-frère, a accompagné à Nancy le docteur Paul, médecin légiste, et a reconnu le corps. »
Avec obstination, l'inculpé continuait à affirmer « Non, ce n'était pas le cadavre de mon mari.
Vous prétendez que, pendant le trajet, où on aurait substitué aux soi-disant documents que contenait la malle, le corps d'un individu tué par une balle dans la tête.
C'est ainsi, sans doute, que les choses ont dû se passer.
Cependant, objectait M. Bonin, j'ai la certitude que la malle ficelée par votre fille et par vous, et cordée de nouveau par le concierge, est arrivée à Nancy, sans avoir subi de modification.
Ce n'est pas à moi de vous expliquer.
Mais pourquoi alors avez-vous déclaré que c'était vous qui aviez tué votre mari?
Il y a un secret que je ne puis pas révéler.
Ah, vraiment? Et désireux de couper court à ces déclarations qu'il considérait comme embracadabrantes, M. Bonin demandait à Mademoiselle Paul-Jacques « Et qu'avez-vous ajouté à cela ?» Et la jeune fille s'écriait, l'air éperdu, «
Mais je suis innocente, ma mère est innocente comme moi. Le coupable, mais cherchez, vous trouverez. Mais je jure que ce n'est ni moi ni ma mère. »
Monsieur Bonin reprenait, « Je vais vous relire une partie très importante de votre déposition. Voilà ce que vous m'avez dit. C'est moi qui ai tué mon mari. Il me trompait ignoblement. Ce soir-là, il était rentré tard. Peureux, j'ai toujours un revolver près de moi la nuit quand je suis seul. Après une discussion violente, je l'ai sommé de rompre sa liaison et je lui ai annoncé mon intention de provoquer moi-même cette rupture. Il m'a menacé d'odieuses représailles sur ma fille. La mère en moi s'est révoltée. Il m'a saisi à la gorge. Pour me défendre, j'ai tiré. »
C'est bien ce que vous m'avez dit.
Oui, monsieur, mais tout cela doit être considéré comme nul et non avenu.
Vraiment?
La vérité, la voilà. Mon mari m'avait quitté pour partir en voyage. On a retrouvé son cadavre dans la malle expédiée à Nancy. À la suite de quel mystère? Je n'en sais rien. J'ai accompagné mon mari à la gare de l'Est dans la matinée du 31 juillet. Ayant oublié divers objets, il est reparti en auto et une heure après, l'auto a rapporté la malle dans laquelle vous m'avez dit que l'on avait retrouvé son corps.
« Mais c'est bien pendant 7 heures que M. Bessarabot a été tué !» interrogeait le juge.
« Je n'affirme rien. Je ne puis dire que ce que je sais et présumer le reste. »
« Alors, quel serait l'assassin ?»«
Je n'ai pas à vous le dire. » Ce n'est pas moi qui suis chargé d'éclairer la justice. Mon mari fréquentait des milieux suspects, cherchait dans ces milieux véreux. Il avait eu des dissensions avec des gens d'affaires, et d'autre part, ses maîtresses se plaignaient beaucoup de lui. Est-ce l'une d'elles qui s'est vengée? J'ai mon opinion et je la garde pour moi. Le juge reprenait. Mais dans cette malle qui devait servir de cercueil provisoire à votre malheureux mari, qu'y avait-il donc auparavant? Cette malle, répliquait Madame Bassarabo, contenait des manuscrits, des livres de stratégie, des organes, des tubes, des plans d'avion pour bombardement. Tout cela me paraissait fort suspect. Les pièces portant des marques de fabrication qui n'étaient ni françaises ni alliées. Je fis part de mon inquiétude à mon mari, qui crut me rassurer en m'affirmant « Oh, je ne suis qu'un intermédiaire !» Mais je demeurais d'autant plus anxieuse que mon mari, élevé à Vienne, naturalisé depuis peu, parlait l'allemand mieux que le français. Et les manuscrits, de quoi traitaient-ils? Et pourquoi leur attribuez-vous une provenance ou une destination alternant allemande? Bien, il s'agissait, dans l'un d'eux, de détruire une ville située au milieu d'une grande capitale, et cette capitale n'était pas Berlin. D'autres concernaient des inventions, comme celle d'un lasso pour rattraper les nacelles d'avion, et celle d'automobiles aériennes. Je suppliais mon mari de les offrir au ministère de la guerre. Il refusa et me défendit de n'en jamais parler à personne. Je me suis borné à empêcher le mal, sans avoir le courage de le signaler à la justice. Et c'est pour brûler tous ces documents, devenus inutiles depuis notre victoire, que mon mari et moi nous empruntions à Montmorency lorsqu'il fut assassiné. Il est bien difficile d'adapter cette version nouvelle à vos premiers aveux, faisait observer M. Bonin. Et je suis désireux de vous entendre m'expliquer cette contradiction inattendue. Sans paraître le moindrement embarrassé, Hiram Hirtel, qui semblait réciter un scénario de roman, mit soudain dans son imagination fertile, répliquait « Lorsque j'ai parlé pour la première fois au commissaire de police, j'étais enfermé depuis 2 jours. On n'est pas libre quand on est enfermé ainsi. Les aveux que j'ai renouvelés ensuite devant vous étaient d'ailleurs obligatoires. Quel sens donnez-vous à ce mot? Enfin, je veux dire que force était de bien m'accuser moi-même, puisque dès que je lâche mon poste, c'est ma fille que l'on accuse. » J'aurais pu vous dire que nous sommes toutes les deux innocentes, mais alors vous ne pourriez croire votre dossier. Il vous faut un coupable, et c'était pour ma fille 2 hivers à passer à Saint-Lazare. Une petite qui crache le sang. Je vous jure sur la tête de ma fille et de mes petits-enfants qu'elle est innocente. Nous sommes, elle et moi, victimes de la fatalité, ou plutôt d'une fatalité. » Et éclatant en sanglots, elle martela. « Pourquoi vouloir dire que ce soit elle ou moi ? Cruel dilemme ! Ce n'est pas à moi de trouver l'autre. Ah, si je voulais mentir ! J'ai traversé 8 fois l'océan au milieu des torpilles. J'ai entendu gronder le canon révolutionnaire du Mexique. Je sais conduire une auto. Si je l'avais tuée, je l'aurais mis en voiture et jeté à l'eau à marée basse. » Enfin, s'écriait M. Bonin, expliquez-moi comment votre mari se trouvait dans la malle. Dans la malle, mais c'est par vous que j'ai su. Oh, je vous assure pourtant que ce n'est pas moi qui l'y ai mis, ripostait le magistrat. À cette spirituelle boutade, Madame Bessarabo ne put réprimer un très léger sourire. Et elle continua avec une volubilité fiévreuse. « C'est moi qui vous ai révélé que la malle était à Nancy. C'est moi qui l'ai envoyée là. C'est entendu. Je la croyais remplie d'échantillons que mon mari désirait expédier dans cette ville. Mon mari était venu me trouver à la gare de l'Est avec cette malle. Il était dans une auto, sans taximètre, et il me dit « Attends-moi là, je reviens. » Où alla-t-il? Chez qui? Je ne sais. Toujours est-il qu'une heure après, l'auto revint seul. Le chauffeur me remit un ordre écrit, signé Bessarabo. Je l'ai déjà parlé. Et c'est sur ces indications que j'ai fait partir la malle.
Hochant la tête d'un air sceptique, M. Bonin disait à Mademoiselle Paul-Jacques
« Alors vous aussi, tout ce que vous avez raconté n'existe plus. »
Prenant une attitude héroïque, la jeune inculpée s'écriait
« Oh, je ne veux pas m'innocenter pour accuser ma mère. Je ne l'ai pas vue tirer le coup de revolver. J'ai entendu l'explosion, mais j'ai cru que c'était le chauve-main. J'ai vu un paquet volumineux dans la chambre, mais c'était des échantillons. Je l'ai aidé à mettre ce paquet dans la malle. Je crois vous avoir dit que j'avais nettoyé des taches de sang dans la cheminée. Non, ce n'est pas vrai. Je l'ai dit pour qu'on ne me reproche pas à ma mère de l'avoir fait. J'ai raconté que pendant une promenade en barque sur le lac d'Enghien, maman avait jeté dans l'eau un portefeuille, des bijoux, un revolver. Mais ce n'est pas vrai non plus. C'était une invention de ma part.
« Mais réfléchissez un peu, observait le magistrat, et vous vous rendrez compte que tout ce que vous me racontez là est un tissu d'invraisemblance. » Mais Mademoiselle Paul-Jacques s'écriait d'un ton larmoyant «
Mais je vous affirme que ce n'est pas moi qui ai tiré !»
Monsieur Bonin n'était pas homme à se laisser troubler par ces histoires nouvelles qui semblaient avoir pour but de le diriger sur la piste d'un mystérieux inconnu que, soi-disant, pour des raisons d'une gravité exceptionnelle, ni Madame Bessarabo ni sa fille ne voulaient lui faire commettre. Au début de l'enquête, le magistrat s'était demandé si les deux femmes n'avaient pas été aidées dans leur tâche macabre par un complice quelconque, et il avait fait rechercher ce beau jeune homme qui avait passé et passait encore pour avoir eu des relations intimes avec la meurtrière. Le résultat de l'enquête avait été que ce garçon, jeune homme de lettres obscures, n'avait été mêlé en rien à la mort de M. Jacques, pas plus qu'à celle de M. Bessarabo. Peut-être était-ce un autre. Héra Myrtel recevait en effet chez elle, en même temps que des gens très bien, des personnalités plutôt suspectes, voire même inquiétantes. Or, toutes les recherches que M. Bonin avait ordonnées de ce côté-là étaient demeurées infructueuses. Il avait donc le droit de se dire logiquement que si Mme Bessarabo usait si tardivement d'un moyen de défense invraisemblable entre tous, c'était qu'elle se sentait perdue et qu'ayant eu le temps de se mettre d'accord avec sa fille, lorsque celle-ci avait été malade, elle avait espéré, sinon établir son innocence, mais tout au moins diminuer sa responsabilité. D'ailleurs, le juge répondait à cette manœuvre par une série de questions qui allaient sérieusement embarrasser les deux femmes. Coupant en cours à cette thèse du corps substitué, il demandait « Quelle était votre situation pécuniaire mi-fin juillet au moment de l'assassinat de M. Weissmann ?»«
Très florissante, » répondait imperturbablement la femme de lettres.
Le juge reprenait.
J'ai dans mon dossier non seulement des témoignages, mais des documents qui prouvent le contraire. Vous-même, ne m'avez-vous pas dit que vous ne possédiez plus que 3 000 francs à cette époque?
Ce qui était insuffisant pour vous permettre de vous rendre à Mexico avec votre fille, ainsi que vous en aviez l'intention.
Mais si j'allais à Mexico, cherchait à rétorquer l'inculpé, c'est parce que j'avais encore à recueillir des sommes importantes sur la succession de mon premier mari.
Alors pourquoi avez-vous prétendu que M. Weissmann avait dévoré votre capital? D'ailleurs, un témoin, M. Pfister, qui est très bien renseigné, affirme au contraire qu'il ne vous redonnait rien de cette succession.
Et M. Bonin donnait à Mme Bessarabeau et à sa fille lecture de ce témoignage dans lequel, après s'être étendu sur la situation financière de Mme Bessarabeau, M. Blister déclarait que, très au courant de la vie conjugale de M. Weissmann, celui-ci lui avait dit, dans le courant de juillet, « Ma belle-fille est trop aimable depuis quelques jours avec moi. » Et il ajoutait, qu'en prononçant ces mots, M. Bessarabeau avait porté ses mains à son cou. La femme de lettres et sa fille s'écriaient « Mais c'est faux !» Et la meurtrière, toujours de ce même ton mélodramatique qui la caractérisait, affirmait « Mais nous avons toujours été bonnes et affectueuses pour M. Weissmann. » La séance se terminait sur ces dernières paroles. Les avocats se regardèrent consternés. Décidément, leur cliente ne facilitait pas leur tâche. L'affaire Bessarabeau n'allait pas tarder à entrer dans une phase nouvelle. Jusqu'ici, en effet, M. Bonin n'avait eu à défendre ses investigations que sur les circonstances dont M. Bessarabeau avait trouvé une fin tragique. Mais, à la suite de l'enquête prescrite par le magistrat M. Cherdelin, procureur de la République, signait un réquisitoire, chargeant également le juge d'instruction de rechercher les causes de la mort de M. Jacques, le premier mari de l'inculpé. M. Bonin prescrivait aussitôt l'exhumation du corps de M. Jacques, enterré au cimetière de Barcelonnette. Cette opération fut effectuée le 17 juin 1921 en présence du juge d'instruction de cette ville et d'un médecin légiste chargé de l'autopsie. Le praticien retrouvait dans le crâne la balle qui avait causé la mort de M. Jacques. C'était un projectile d'un revolver de gros calibre. En outre, on découvrait sur le cadavre de singuliers documents qui consistait en 8 lettres enfermées dans une enveloppe épinglée à l'intérieur d'une casquette coiffant le crâne du mort. Ces lettres semblaient établir que Mme Bessarabeau n'était pas responsable de la mort de son mari. Tout en effet portait la phrase suivante « La vie m'écœure, je suis vieux et malade, j'aspire au repos, je veux disparaître ». Cela, en effet, donnait à penser que M. Jacques s'était réellement suicidé. Mais pourquoi enfermer ces 8 lettres dans une enveloppe en les épinglant à la casquette qui coiffait le crâne d'un mort? Personne ne l'avait donc vu. On avait donc examiné la blessure de la tempe et enterré le cadavre sans à aucun moment lui enlever sa casquette? Ou bien celle-ci avait été mise après coup? Aussi, M. Bonin se demandait-il, mais qui a épinglé l'enveloppe au couvre-chef? Quand, pour quelle raison et qui a écrit ces lettres? Et en reprenant l'étude à fond de tout son dossier, l'éminent magistrat, désireux de ne rien laisser dans l'ombre, c'était une tâche très ardue dans une affaire que les accusés s'efforçaient de rendre aussi embrouillée que mystérieuse, étaient frappés par le fait suivant. Le lendemain du jour où l'on avait appris l'arrestation de Mme Bessarabeau et de sa fille, on trouvait, pendu dans le bois de Boulogne, sur le territoire de Neuilly, un M. Becker, ingénieur, âgé de 45 ans, et demeurant rue Custine. Ce M. Becker avait été pendant quelque temps l'associé de M. Bessarabeau, mais il y avait déjà plusieurs mois que les deux associés s'étaient séparés. M. Becker n'en avait pas moins continué à entretenir des amicales relations avec son ancien associé et il se rendait parfois aux réceptions de Mme Bessarabeau. L'enquête immédiatement ordonnée en vue de déterminer les causes de ce suicide avait établi que M. Becker, après s'être entré au service de M. Calvé, commissionnaire, avait dû, à la suite de certains incidents, résilier ses fonctions. Veuf, souffrant d'une maladie de cœur, déjà très neurasthénique, on avait alors supposé que ce dernier avatar lui avait inspiré ce geste de désespoir. Interrogée à cette époque, la fille de M. Becker avait déclaré « Mon père avait été en effet en relation d'affaires avec M. Bessarabeau et en amitié avec sa famille, ce qui me donna l'occasion d'aller plusieurs fois asseoir la bruyère. J'y avais toujours été reçu avec beaucoup d'amabilité. Or, je ne crois pas que mon père ait été au courant de tout ce qui se passait dans cet intérieur, et je doute fort qu'il ait reçu des confidences de l'un ou de l'autre. » Afin de ne pas conserver dans son esprit la moindre arrière-pensée, le magistrat ordonnait à ce sujet un supplément d'enquête qui, cette fois, lui apportait la preuve décisive qu'il n'y avait simplement qu'une coïncidence entre l'assassinat de M. Bessarabeau et le suicide de son ancien associé. M. Bonin en arrivait donc à conclure que peut-être Mme Bessarabeau, se souvenant tardivement de cet incident, avait résolu de l'exploiter à son bénéfice, en laissant supposer que le complice mystérieux dont elle prétendait ne pas avoir révélé le nom n'était autre que ce pauvre M. Becker. Elle espérait ainsi faire planer sur toute l'affaire un doute qui lui vaudrait l'indulgence des jurés. D'ailleurs, un fait nouveau et important se produisit. Un entrepreneur de fumisterie de Trouville, M. Arsène Godreuil, 22 rue Carnot, et ses deux employés, M. Raymond Leroux et Georges Paulon, déclaraient à la police qu'ils croyaient reconnaître dans les photographies de Mme Bessarabeau et de sa fille, publiées par les journaux, deux étrangères qui, en juillet 1920, leur avaient commandé une caisse en tôle destinée à être introduite dans une malle. Ces deux femmes avaient insisté, supplié même pour que cette caisse fût en tôle, pour être étanche. Mais le travail ne put être exécuté. M. Goudreuil ne pouvant faire une caisse en zinc, et les étrangères ayant toujours refusé de montrer la malle. Enfin, avant de renvoyer les deux accusés devant la chambre des mises en accusation, le juge d'instruction, désireux de s'entourer de toutes les garanties comme était pour procéder à l'examen mental de Mme Bessarabeau, les docteurs Rubinovitch, Collin et Truel. Le 26 octobre suivant, les aliénistes déposaient leur rapport et leur conclusion était que considérait l'inculpé comme jouissant de la plénitude de ses facultés mentales et entièrement responsable de ses actes. Pour clore son enquête, M. Bonin avait encore besoin de la réponse d'une commission rogatoire qu'il avait envoyée au Mexique dans le but de savoir quelle était la situation financière de M. Weissmann à l'époque où, à Mexico, il avait connu sa femme. Dès qu'il fut en possession de ce document, c'est-à-dire au début de janvier 1922, M. Bonin faisait parvenir à la chambre des mises en accusation le dossier de l'affaire Bessarabeau. Quelques jours après, Marie-Louise Victoire Gronès, dite en littérature Hera Mertel, femme Weissmann, était inculpée d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de son second mari, Jacques Jacob Providence Israël Weissmann, dit Bessarabeau, assassiné dans la nuit du 30 au 31 juillet 1920, à son domicile, 3 Square La Bruyère. Sa fille, Paul-Rose Joséphine Jacques, née de son premier mariage, était inculpée de complicité d'assassinat. Dans ses conclusions, le juge déclarait que le mobile du crime avait été incontestablement déterminé par le désir des inculpés de s'attribuer le montant d'une commission de 600 000 francs que M. Weissmann Bessarabeau devait toucher le 30 juillet sur une affaire de concession pétrolière au Mexique. Ajoutons que l'information ouverte sur la mort de M. Jacques, premier mari de Mme Bessarabeau, suivait toujours son cours. Reproduisons maintenant, à titre de document, ce curieux article paru dans le Petit Parisien du 14 juin 1922. On sait que M. Bessarabeau devait toucher une commission de 600 000 francs en retour de ses bons offices pour s'enlever d'une opinion option relative à une concession pétrolifère au Mexique. Il s'agit d'un terrain de 15 000 hectares situé dans la vallée de Oaxaca, au sud du Mexique. La concession porte là-bas le nom d'El Hilgo, le figuier. Une vieille légende mexicaine veut que sa terre recèle des trésors prodigieux, mais elle ajoute que trois hommes périront de mort violente avant d'avoir pu s'en emparer. Cette fâcheuse prédiction n'empêcha point de hardis prospecteurs de fouiller le sol pour y découvrir le fabuleux métal qui mûrissait dans ces calmes lointaines, comme dit à peu près le poète. Hélas, ils ne trouvèrent ni or ni argent, pas même de cuivre. Mais lorsqu'on connut l'existence du pétrole au Mexique, les recherches reprirent activement à El Hugo. M. Bessarabo s'entremit le premier pour proposer la concession qui appartenait à la maison Olivier. Des manuscrits, magasins de nouveautés, Olivier sont dans les plus grosses firmes de Mexique, à des financiers parisiens. On sait le triste sort qui l'attendait. À sa mort, M. Becker, son associé, reprend l'affaire El Hugo. Quelques jours plus tard, on retrouve son cadavre suspendu à un arbre du bois de Boulogne. Enfin, publiciste parisien, M. Henri Léon, s'intéresse à son tour à la concession maudite. Il en parle à un ami qui habite 39 rue de Moscou le 13 mai, à midi un quart. À 2 heures, il est tué par un fou, boulevard Poissonnière. Ainsi, la sinistre prédiction mexicaine s'est réalisée. Les trois premiers hommes qui se sont occupés d'arracher ces trésors à El Hugo ont péri d'une manière tragique.